Bienvenue à cette deuxième table ronde de la Volte. Donc aujourd'hui, on va se faire un petit historique artistique de la Volte. À ma droite, Alain Damasio, auteur de La Horde du Contrevent et de La Zone du Dehors, qui ne comprend pas trop l'intitulé de historique artistique. Donc j'essaierai de lui faire comprendre au fur et à mesure. Donc si ça digresse un peu, vous étonnez pas. À ma gauche, Mathias Echenet, qui comprend totalement ce qu'est un historique artistique, puisque c'est lui qui le fait, fondateur et éditeur de La Volte. Je précise, parce que hier je me suis fait engueuler. Alain Damasio fait partie aussi des fondateurs de la maison d'édition. Donc on a à peu près une heure, et puis on gardera un quart d'heure, 20 minutes pour les questions.
Peut-être même faire trois quarts d'heure et puis
une demi-heure. Et puis une demi-heure de questions, voilà, ouais, exactement. Ouais, ouais.
J'aime bien la question.
Comme ça, voilà, Alain, sans donner à cœur joie. Donc, cette année, nous fêtons les 10 ans de la Volte. Et la Volte ayant été créée pour éditer La Horde du Contrevent, nous fêtons en même temps les 10 ans de la Horde, pour laquelle vous pouvez voir une très jolie exposition dans le salon, d'ailleurs. Il y a les illustrations qui ont été faites par Boris à la sortie et des illustrations qui sont en ce moment des croquis originaux de l'adaptation BD de La Horde du Contrevent. Ma première question, elle est pour toi. Tu as déjà expliqué un peu hier, mais bon, il y a des gens qui n'étaient pas là hier. Est-ce que tu peux résumer très rapidement ce que tu as dit hier par rapport à la création de La Volte?
Oui, mais je peux.
Voilà. Bah, je t'en prie. Alors, pourquoi La Volte et d'où ça vient et...
On remonte, mais je vais faire rapide, c'est l'historique. Donc, Alain et moi, nous nous connaissons depuis fort longtemps. On a d'ailleurs été à Ampère, là, c'est ça pour les Lyonnais, ensemble, en prépa. Et il connaissait personne dans l'édition. Moi, je travaillais et je travaille encore dans l'édition pendant la journée. Et il avait un manuscrit qui s'appelait La Zone du Dehors, c'est ça le titre?
Ouais.
La Zone du Dehors. Et il arrivait en soirée et il m'a parlé que de philo et Derrida, Foucault, voilà. Et donc là-dessus, bah, il...
D'où ça vient?
On remonte, mais je vais faire rapide, c'est l'historique. Donc, Alain et moi, nous nous connaissons depuis fort longtemps. On a d'ailleurs été à Ampère, là, c'est ça pour les Lyonnais, ensemble, en prépa. Et il connaissait personne dans l'édition. Moi, je travaillais et je travaille encore dans l'édition pendant la journée. Et il avait un manuscrit qui s'appelait La Zone du Dehors, c'est ça le titre?
Ouais.
La Zone du Dehors. Et il arrivait en soirée et il m'a parlé que de philo et Derrida, Foucault, voilà. Et donc là-dessus, bah, il cherchait un éditeur. Donc moi, je n'étais pas éditeur du tout. J'étais au service des éditeurs. Et il y a une classe là, ici, pour le père Damasio. Que je pas. Voilà. J'ai promis des révélations, donc il est venu exprès. J'ai eu un coup de foudre, oui, et j'ai cherché des éditeurs, et tous les éditeurs l'ont refusé, ce livre. Et nous l'avons fait avec Silibris, avec Olivier, qui avait monté une maison d'édition d'impression à la demande. Hein, c'est sur Internet, c'est pas du numérique, c'est de l'impression numérique. Et la Zone du Dehors a été éditée en deux tomes, puis en un tome chez Silibris. Quand Alain est venu avec un autre projet, non écrit complètement, mais il y avait un synopsis... on s'est dit avec Olivier de Silibris qu'il fallait pour Alain un vrai éditeur qui le cadre un peu et puis ça nous permettait aussi d'essayer d'avoir la Zone du Dehors en poche, hein, pour parler de tout ce qu'il y a dans les coulisses et je travaillais chez Flammarion à cette époque et Jacques Chambon, qui est quelqu'un de très important dans la science-fiction, était partant pour ce projet et il commençait à très bien s'entendre, même si Jacques Chambon considérait que avoir un livre avec 23 narrateurs, ça n'était pas possible. Et voilà, Jacques Chambon est mort.
Pour ceux qui ne savent pas, il parle de La Horde du Contrevent. Là, ceux qui
la Horde pas du le Contrevent. Le projet, c'était La Horde du Contrevent avec 23 narrateurs. Et donc, quand Jacques Chambon est mort, Alain m'a proposé, convaincu, obligé à monter une maison d'édition. Voilà. et la maison d'édition le projet est que c'est plutôt pour la nuit et les week-ends. Et c'est une zone de liberté totale pour publier ce qu'on a vraiment envie de lire ou de publier. Donc je vais pouvoir parler après de ligne éditoriale, je ne sais pas s'il y en a une. En tout cas, c'était d'abord et avant tout à fond dans la Horde du Contrevent, qui a eu du succès en plus, alors que normalement, il y avait tout pour que ça ne marche pas. Voilà, voilà l'histoire du début de la Volte. Il y a une place.
Il faut faire un choix.
Il y a de la place devant la chaise.
On peut choisir.
On peut s'asseoir par terre devant la chaise.
Donc voilà l'historique, la vraie histoire, hein, c'est une vraie histoire, c'est une belle histoire. Parce que normalement,
non,
un auteur inconnu, un éditeur inconnu, un gros livre, on ne sait pas, c'est de la fantasy, de la science-fiction, on ne sait pas ce que c'est. Normalement, dans nos canons commerciaux, bah, ça ne doit pas marcher. Et 23 narrateurs, et en plus avec un début assez ardu, ça ne doit pas marcher. Et en fait, voilà, un bon texte, peut-être qu'il réussit à se frayer un très bon texte, un chemin, et ça arrive, voilà. Et effectivement, là, il y a plusieurs faits qui se sont penchés sur notre berceau. Et c'est une vraie histoire, une vraie belle histoire.
Non, ce qui est bien aussi à raconter, moi je trouve, c'est que, et ça, à tous les éditeurs, à tous les marketeurs existants dans le domaine de l'édition, il faudrait leur dire et puis leur enfoncer avec un marteau et un énorme clou dans la tête, c'est que
moi,
les gens croient...
Dans la journée, je m'occupe de marketing. Ouais.
Les gens croient, enfin en tout cas, ces gens croient que... il existerait une demande potentielle pour les livres, tu vois, ou un public potentiel qui serait déjà prédéterminé vers certains types de romans. Et quand vous sortez un livre qui sort de ces cadres dont ils ont l'habitude, ils croient, avec toute leur certitude, que ça ne marchera pas. Bon, voilà. Et sur la Horde du Contrevent, comme sur la Zone d'Or, il faut quand même dire que ces deux bouquins, pour vous dire simplement aujourd'hui les chiffres, quoi, la Horde, on a 120 000 exemplaires vendus, je crois que c'est le gros succès.
120 000 en poche et plus le grand format.
Et la Horde et la Zone que personne, dont personne n'avait voulu, hein, donc on vendait par 50 exemplaires, elle est aujourd'hui à 50 000 exemplaires. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est des livres qui ont créé leur propre public, tout simplement. C'est-à-dire que le public ne préexistait pas. Et le livre, voilà, on est dans un domaine où l'offre crée sa propre demande. Il n'y a pas une demande qui préexiste. Et ça, c'est très difficile à faire comprendre ça à l'éditeur. Et sur la Horde, le truc quand même extraordinaire, c'est qu'il y a eu Jean Chambon donc, qui a dit « Ok, on va le faire ». Qui était passionné, qui était prêt à le faire. À partir du moment où il meurt, on refait un tour de table auprès des éditeurs.
Très peu, hein, en fait. C'est là où on fait l'histoire.
Ouais,
en fait,
on n'est pas d'accord avec Mathias
Satsumé. On n'est pas d'accord. Voilà. Donc il y a au moins deux, trois éditeurs qu'on a contactés, mais.
En tout cas,
c'est tout. Le
on
vrai
a contacté
tour de table,
les...
c'était pour la zone du dehors.
Ouais, on a contacté les éditeurs qui étaient susceptibles vraiment de.
Ouais.
Et les retours ont été cataclysmiques quand même, quoi. C'est-à-dire
oui,
que les gens.
Ils ont le droit.
Les gens ont dit que c'est un livre prétentieux, les gens ont dit que c'était. Voilà, que c'était prétentieux.
C'est vrai.
Et voilà, et ils se sont complètement plantés. Bon, voilà, donc c'est pour dire, je ne sais pas s'il y a des apprentis réalisateurs, des apprentis compositeurs de musique, des apprentis écrivains, etc. Mais vraiment, le fondement de tout, c'est d'aller au bout de ce qu'on veut faire, aller au bout de ce qu'on peut, sans se soucier d'une éventuelle audience, d'un éventuel lectorat, de comment elle marchait, de ce que les éditeurs vous disent, etc. Et vous allez ouvrir de vous-même quelque chose, quoi, qui n'existait pas avant, quoi, c'est tout. Mais si on se tient à ce qu'est le marché au moment où vous sortez un livre, bah vous n'avez que des gens qui vous disent non parce que bah, ça sort des coups.
Pas tous comme ça.
Ouais.
Mais c'est vrai.
Et voilà. Et le, enfin moi je dis toujours le flair ou le génie ou l'intuition de Mathias a été de dire, alors même que personne dans le marché n'avait validé quoi que ce soit, a été de dire ce roman, il est extraordinaire, il faut de toute façon le sortir. Quoi.
Ça a l'air d'être une de tes manières de fonctionner, que ce soit pour la Horde. Au début, tu as créé, après la Horde, pas mal de recueils de nouvelles, d'auteurs que tu connaissais, que tu as motivé pour faire...
assez rapidement, Chromosome de...
Il y a eu Chromosome de Stéphane
Beauverger.
Qui était inconnu aussi
bah oui.
À l'époque, complètement.
Tu as été présenté par Alain, non, ou tu connaissais déjà...
Non, on connaissait par d'autres, ouais.
Et donc, tu pareil, c'est un espèce de coup de foudre littéraire à ce niveau-là.
Donc, là aussi, il y a... je critique pas du tout les autres éditeurs au sens où nous on s'est fait une zone, non mais réellement on s'est fait une zone de luxe, on a mis plein d'argent dans une boîte en se disant on veut pas de salariés, je ne veux pas de salariés et on va au bout de ce qu'on a envie de faire. Donc les autres éditeurs, la plupart c'est normal, ils faut en vivre, ils veulent peut-être pas prendre ces risques là, tout ça. Mon risque c'était juste une question d'argent, c'est tout. J'ai pas quitté mon boulot, j'ai pas l'intention de le faire. Et en même temps, bah, on peut ne pas faire de livre. Si on n'a pas un livre extraordinaire dans l'année, bah, on fera pas de livre. Voilà. Ça, c'est un vrai luxe. Donc, Donc ça n'a rien non plus d'incroyable. Et puis au début, même si j'ai considéré que c'était un livre très important, je pensais pas qu'on en vendrait beaucoup.
Voilà. Non, mais on s'est même pas posé la question.
On a fait des versions collector pour retaper les copains. On avait, en plus du CD, il y avait un DVD et un emballage. Et ensuite, je disais, mais c'était le changement. Là, on fait vraiment les vieux. C'était le changement du franc à l'euro. Ça m'a beaucoup aidé. Je fais partie de ces gens qui ont toujours pas bien compris comment ça fonctionnait. Donc, en gros, c'est à peu près pareil pour moi. Maintenant, c'est peut-être vrai d'ailleurs. Un franc, c'est un euro. Donc, aller demander aux copains de mettre plein d'argent dans une boîte et de leur vendre un collector à 70 euros, ça me dérangeait pas du tout. Si on m'avait dit pareil en franc, j'aurais dit non. Donc
moi, à l'époque,
on a vendu des collectors pour équilibrer la Horde du Contrevent. Je pensais que les autres livres équilibreraient la folie de la Horde du Contrevent avec un CD, un illustrateur, un site internet. Voilà. Je pensais que ce seraient les autres livres et en fait, c'est plutôt l'inverse. Ouais.
Et donc, le chromosome de Stéphane Beauverger, comment tu le rencontres, Stéphane? Pourquoi tu choisis ce roman aussi à ce moment-là, qui est déjà ardu dans son style aussi, pas mal d'un peu dedans.
C'est pas ardu. J'aime bien la lecture qui se mérite, enfin au sens où le lecteur il est aussi il est acteur quoi. Et ça plaît pas, mais on rentre tout de suite dans un univers avec une écriture, un univers. Donc Chromosome, j'avais un ami dans l'édition qui avait lui-même monté une association pour le lancement de Chromosome où ils avaient mis des ronds, ça rappelle des choses, pas beaucoup, et ils avaient fait une petite version avec Corinne Billon, qui est illustratrice d'une grande partie des livres de chez nous, Stéphanie Aparicio, qui est notre, enfin je l'ai mal dit hier, qui est notre créateur directive. elle est créateur directive. Et il y avait deux autres personnes qui avaient créé une association pour publier Chromosome de Stéphane Beauverger. Voilà. Donc après, je les ai absorbés. Après, on l'a fait nous-mêmes dans une édition, puis j'ai essayé de récupérer les gens et y en a qui ont. S'associer. Venir et faire ensemble. Et puis après Chromosome, il y en a eu deux autres, puisque c'est plutôt un triptyque de Beauverger. Voilà. Et effectivement, le quatrième de Beauverger a eu plein de prix et c'est l'autre vedette de la maison d'édition. Voilà.
Le Déchronologue.
Le Déchronologue.
Une histoire de pirate futuriste.
Le Déchronologue.
Le Déchronologue.
D'accord.
Si vous avez lu la Horde,
il y en a plus qu'un sur le stand. J'en ai pris trois.
Battez-vous
pas non plus.
Et donc après là-dessus, tu parlais de ligne éditoriale. Je sais pas trop s'il y en a une. Elle te vient d'où? Est-ce qu'avec les autres fondateurs, t'as des relations sur le choix des livres? Est-ce que tu rencontres les auteurs toujours avant? Est-ce que c'est seulement des amis qui te comment tu fais le choix?
À chaque livre, c'est une rencontre particulière, des circonstances particulières, de la chance. J'arrive pas à traiter, il y a plusieurs voletés avec nous, donc on fonctionne, c'est à la fois mon goût et à la fois une sorte de collectif. C'est-à-dire, autour de chaque livre, il y a plusieurs personnes, ça génère une énergie. En plus, il y a une partie des livres qu'on fait avec un CD, une bande originale de livres. Donc ça nous permet de faire éventuellement des concerts, ça va plus loin et il y a cette énergie qui transparaît. Le texte est au centre, ce qui compte c'est le texte, mais du coup il y a des prolongements. Et à chaque fois il y a ce qu'on appelle des voletés, mais c'est bien qui veut. Ils viennent m'aider de temps en temps pour le tri des manuscrits, mais il n'y a personne qui s'en occupe vraiment. Donc en fait on est vraiment très mauvais, c'est que j'ouvre à peine les enveloppes, j'arrive pas à m'en occuper. Voilà. Et personne pour s'en occuper. Donc, les manuscrits qui arrivent par la poste, en général, on les ouvre même pas et on ne les répond même pas. Et ça, c'est vraiment pas correct. C'était pas du tout dans mon projet, quoi, mais j'y arrive pas. Voilà. Il y a des gens qui peuvent me rencontrer à d'autres moments. On n'est pas en recherche de texte. Et pour pas déjà avoir une indigestion, l'idée, c'est d'avoir 4, 5 livres par an. Hein. Et effectivement, entre non pas les amis, enfin. Pas parce qu'ils sont amis qu'on les publie, quoi. T'as pas dit ça quand même? Non. D'accord. On est amis, on est proches, parce qu'on partage beaucoup de choses et puis on aime surprendre, on aime. Donc on a des passions communes. On en reparlera. Il y a des vrais, vrais points communs en réalité qui arrivent quand on regarde les bouquins publiés et les auteurs qui en plus eux-mêmes partagent beaucoup de projets, des projets, des projets, je le répète, avec un. Voilà, donc c'est des rencontres, c'est des auteurs. Moi, j'ai toujours adoré, par exemple, les présences du futur, de quoi, des années 90, qu'on trouve sur les, chez les bouquinistes, quand on les trouve, c'est Volodine. Bon, d'accord, alors aujourd'hui, il est en littérature blanche, il n'est pas en science-fiction, attention. Mais Kurval, justement, Barbery, bah, donc moi, je suis allé chercher ces gens-là que j'adore et qui n'étaient plus publiés. Parce qu'ils sont, enfin voilà, ils ont plus de maison qui comprend ou qui prendra le risque, j'en sais rien. Donc il y a à la fois des nouveaux et à la fois des auteurs que moi j'adore et que j'ai envie soit de trouver un nouveau public, soit de, avec des titres qui étaient déjà sortis, qui éventuellement retravaillent, et puis des nouveautés, voilà, de leur main. Donc il y a plusieurs générations, plusieurs parcours, hein, mais il y a beaucoup de points communs en fait. C'est ce qui apparaît après.
Et toi Alain, donc Mathias parlait de projets différents à la Volte, mais avant de parler de ça, est-ce que il t'arrive de proposer des romans à Mathias ou de faire rencontrer un auteur qui t'a parlé d'un roman et de pousser peut-être.
Ouais,
tu sens la Volte là-dedans un peu.
C'est arrivé une ou deux fois parce que des gens me passent des manuscrits, mais comme je suis un très mauvais lecteur, je décourage au maximum les gens. Parce que je vais mettre un temps fou à lire leur manuscrit et du coup, mais je l'ai fait une ou deux fois. D'ailleurs, il a refusé le manuscrit. C'est moi, je trouvais ça bien, mais c'était pas suffisant. Et ça passait pas le cap où quelque chose vraiment le touche, le retourne. Il a un critère très simple, quoi. Enfin, tu pourrais le dire très bien, mais c'est.
Ah oui, mais oui, c'est pour ça. Moi, parler de ligne éditoriale ou donner des leçons aux uns aux autres, il en est pas question. C'est soit ça me foudroie, on peut trouver plein de termes, ça me surprend ou ça me gêne même des fois. C'est arrivé sur un livre. Mais non, mais je vais pas publier ça. Et ça commençait par une scène d'inceste, en fait, voilà, mon seul critère, c'est ça me foudroie ou pas, c'est facile. Donc, j'ai pas l'intention d'expliquer à un auteur comment il devrait écrire pour que ça rentre dans la ligne éditoriale de la Volte, parce que vous comprenez la ligne éditoriale. Non, voilà, au moins c'est facile. Je dis, ça m'a pas foudroyé, et voilà, bonne chance. Je suis gêné en fait, j'ai du mal à dire non, c'est dur.
Ouais, c'est dur.
Voilà, il m'a proposé deux manuscrits de gens qui avaient fait des textes plutôt bien, mais non, c'était pas révolutionnaire. Ouais.
J'aime bien ce critère, c'est-à-dire que si ça existe déjà, Mathias c'est un très très gros lecteur, donc il a lu énormément, il continue à lire énormément, et il sait, il a une sorte de perception de ça, un panorama de ce qui peut se produire, surtout en SF, etc. Et si ça s'inscrit dans ce panorama et qu'il n'y a rien de neuf ou de réellement révolutionnaire dans le texte ou de réellement mobilisant, il ne va pas le publier. Et c'est un super critère, je pense. Un critère très simple, mais très fort.
Après, on passe à côté de choses. Un des ratés, d'ailleurs, j'ai vu que dans ton entretien... Ah oui, on fait un recueil d'entretien bientôt qui va paraître. On est en retard, bien entendu. Et ça, c'est un autre critère. Et c'est les entretiens. Richard Combalot, qui a fait beaucoup d'anthologies d'entretiens... éreinte les auteurs avec des heures et des heures d'interrogatoire. J'ai mis d'ailleurs dans la quatrième, il y a marqué interrogatoire. Et donc, on parle, donc Alain notamment, on parle de sa vie, de son enfance, de ses lectures, etc. Voilà. Et du coup, j'ai découvert des choses, j'en découvre toujours. Et il disait, ouais, on a loupé un livre, et en fait, c'est moi qui te l'ai fait découvrir parce qu'on dirait que tu m'engueules là-dessus. C'est Yamaloka Terminus, je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est Léo Henry et Jacques Lucchelli qui avaient écrit un recueil de nouvelles des nouvelles à quatre mains autour d'un seul endroit, d'une ville, avec une Bible autour de la ville très, très, très précise, mais qu'on ignore, nous lecteurs. Et puis, ça a dormi dans le foutoir en bas de chez moi, dans ma cave. Et un jour, j'ai un de nos amis associés, c'est Norbert Merjanian, qui a écrit là aussi par ailleurs. Norbert qui m'a dit, j'ai lu des nouvelles, c'est pas mal. Donc j'ai dû dire au téléphone, oh non, pas des nouvelles. Et puis voilà, ça en est resté là. Et on a fait Yamaloka Terminus. Quand j'ai vu sortir ça chez un éditeur qui faisait absolument pas de fiction, je te l'ai fait découvrir.
Ouais.
Et puis j'ai dit, mais c'est extraordinaire, enfin, j'adore. Voilà. Bon, depuis, on a récupéré, pour dire comme ça, Léo Henry. Mais on passe à côté de choses, hein, bien sûr.
Et donc tes relations avec les autres auteurs ou les autres Voltés, elles se déclinent comment sur différents projets qu'est-ce que tu fais d'autre?
Non, ce qui est chouette, c'est que voilà, quand tu es écrivain, tu es quand même dans ta bulle, dans ta sphère. Bon, il y a les festivals comme ça où tu croises un peu des gens et tout. Mais globalement, on est des îlots comme ça sur un océan de création artistique, etc. Et oula, excusez. Et du coup, on ne sait pas forcément ce que les autres font, on ne comprend pas forcément qu'ils sont dans le même champ littéraire que le nôtre. Et l'intérêt des maisons d'édition comme la Volt, et ça a été un intérêt très fort, c'est que tu rencontres ces gens et tu as l'impression d'appartenir à une même communauté, parce que tu as le même éditeur. Et du coup, des gens comme Léo Henry, comme David Calvo, comme Stéphane Beauverger, c'est des gens à qui très rapidement j'ai lié, parce qu'il y a une sorte de communauté, effectivement, on reconnaît une communauté d'influence, ou en tout cas d'exigence littéraire, c'est-à-dire c'est de la science-fiction, c'est très exigeant stylistiquement, voilà, il y a une vraie recherche narrative aussi, c'est-à-dire c'est exigeant sur les modes narratifs. Et avec ces gens-là, ben, Léo Henry, j'ai travaillé avec lui, je l'ai pris pour travailler sur un jeu vidéo, sur un univers de jeu vidéo. Je l'ai pris quand on a fait le film sur la route du contrevent.
Quand il a fait le projet.
Ouais. Le projet, parce que c'est pas fini. Pareil sur Norbert Humerjanian, pareil sur, à l'époque, Jacques Moukili, qui est malheureusement mort. Stéphane Beauverger a fait le scénario du jeu vidéo Remember Me. Enfin, donc, on bosse ensemble aussi, du coup. On fait des projets ensemble, on se met à travailler ensemble, parce qu'il y a une sorte de communauté naturelle, effectivement, de vision, quoi. Et c'est le propre d'une maison d'édition de réunir des gens dont la sensibilité est proche, quoi. Voilà. Une bonne maison d'édition, c'est ça. Une mauvaise maison d'édition, pour moi, c'est une maison d'édition où c'est complètement éparpillé, tu vois pas la logique, tu vois pas la consistance, tu vois pas une sorte de cohérence globale, au moins de goût, quoi, parce que c'est une cohérence de goût. Et Mathias, c'est son goût, ok, c'est un goût individuel, mais l'avantage d'un goût individuel, c'est qu'il est extrêmement consistant, voilà. Et la Volt, c'est ça, quoi. Je pense que c'est... Donc, du coup, effectivement, ça crée beaucoup de liens. Et moi, j'admire par exemple énormément ce que fait Léo Henry, je trouve que c'est le meilleur spécialiste.
Vous avez remarqué, ouais. Parce que hier on a fait une table ronde, on s'est beaucoup parlé de nous, mais parlons des livres, quoi. Voilà. Donc Léo Henry,
ouais.
Pour moi, le spécialiste, c'est avec Stéphane Perger qui fait les illustrations, qui en général réussit toujours à faire des illustrations illisibles. Donc voilà. Enfin, pas les illustrations, pardon, de la typographie. Donc vous voyez normalement, même de près, vous n'arriverez pas à lire ni le titre, ni le. Mais c'est une merveille.
Le diable est au piano.
Voilà, un recueil de nouvelles. Pour... Très très fort, il écrit.
Mais... Très très fort. Pour moi, le meilleur styliste actuel en science-fiction française.
Une phrase de Léo Henry, c'est vous êtes dans un univers qui est le sien, qui va faire appel à des références qu'on a tous, mais qui mélange. C'est voilà. Grand écrivain. Ouais. Ouais. Moi, je sais pas faire l'article, c'est tout. Je fais des pages de pub, moi, je passe.
Mais donc hier, on parlait des encombrants. C'est un des fonctionnements aussi atypiques de cette maison d'édition. Où tous les premiers mercredis du mois, que ce soit les auteurs, l'éditeur, les stagiaires, tous ceux qui veulent venir, parce que qu'on travaille ou qu'on travaille pour la Volt ou qu'on ne travaille pas, qu'on soit juste fan d'un ou deux ou trois ou quatre ou des dix ou de tous les ouais. auteurs qui sont édités, on peut venir et discuter avec tous ces gens-là.
Sinon, ça nous permet de pas être isolé, ouais, c'est ça.
Sans aucune hiérarchie, sans aucun question de
c'est le foutoir. Et donc il y a régulièrement des gens qui viennent, qui connaissent personne. Benjamin est arrivé comme ça d'ailleurs.
Voilà.
Et voilà, qui es-tu, Benjamin? Quel est ton projet? Et il s'est levé, il a déclamé.
C'est des appels canonymes.
Et donc, ouais, c'est drôle. Enfin, il y a toutes les générations. Il y en a qui apportent des choses, il y en a qui reviennent pas. La plupart du temps, non. Il y en a qui viennent, ils veulent faire des choses. Alors, ils sont soit fans, souvent ils arrivent, soit fans de Alain. Alors il y a la tendance zone du dehors ou la tendance hors du contenant, c'est pas toujours la même. Et il y a, on les a mis à gauche. C'est la zone.
C'est un peu, ouais. Un piètre au milieu.
Et donc, ou par Stéphane Beauverger. Et ils veulent faire des choses, mais moi je sais pas quoi faire. D'abord, on fait ça la nuit, les week-ends. Il n'y a pas de bureau, il n'y a rien. Donc, c'est qu'est-ce qu'ils savent faire, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter. Et surtout, pour participer, il faut lire les livres de la Volt. Enfin, je le dis bêtement parce qu'au début, je ne le disais pas comme ça, mais. Ils viennent, ils repartent avec des livres comment ils peuvent comprendre un peu s'ils n'ont pas lu, pas tous hein, bien sûr, mais s'ils n'ont pas lu d'autres livres pour pouvoir accompagner le mouvement. Puis en fait, il faut attendre qu'il y ait un train qui parte, il faut arriver au moment où il y a un train qui est en gare et là ça va partir, donc il faut monter dans le train et puis voilà, je ne sais pas où ça nous mène.
C'était vraiment une volonté dès le début ça.
Non, je l'ai fait assez tard. C'est ça une métaphore. Mais ouais.
Tu avais cette volonté dès le début d'avoir quelque chose d'ouvert, duquel tu ne sois pas.
Je sais pas.
Tu sois pas
je me suis retrouvé isolé surtout. Voilà, je me suis retrouvé isolé. Je fais une crise à mes associés. Et je dis, voilà, enfin, j'étais isolé, quoi. Et à la bourre, je suis d'accord. Et mais c'est mieux d'être à la bourre à plusieurs, en fait. Et besoin de. Il y avait des gens qui nous ont accompagnés. En fait, bon, c'est une société. On n'est pas là pour perdre de l'argent. Pour en gagner, c'est bien, mais ok, c'est une société. Mais ça fonctionne comme une sorte de collectif ou d'association. Donc, il y a des bénévoles, mais je ne sais même pas si ça veut dire. Donc, on dit Volté, on ne sait pas non plus. Voilà. Il y a des gens qui viennent, qui apportent des choses. Et évidemment, quand on parle d'associatif ou de bénévole, bah, chacun a sa vie à côté, ses contraintes, on déménage, on a des enfants. Là. Donc, ceux qui étaient là au départ, n'ont pas. Enfin, voilà, au bout de 2-3 ans, ce n'était plus nécessairement les mêmes. Et il fallait se. Je voulais absolument pas être isolé, il fallait donc se renouveler aussi et accueillir de nouvelles personnes, puis c'est drôle, d'autres horizons. Voilà. Donc c'est pour ça que je me dis, déjà j'habite en banlieue de Paris, donc parisien, il faut traverser le périphérique, et c'est une aventure. Bon, donc c'est de se dire, on va dans un resto tous les mois, et puis dans Paris, et puis il y a des gens qui viennent. Et on a eu des projets incroyables. Benjamin est venu avec un projet, enfin il préparait son film, il n'était pas fait encore.
Non.
Son film autour d'une nouvelle de Stéphane et mixé d'un peu d'Alain Damasio, de Stéphane Berger. Il y en a récemment qui sont venus de Belgique, qui avaient fait un jeu, c'est la puissance de l'Horde du Contrevent, qui avaient fait un jeu de plateau de la Horde du Contrevent. Donc on était tous là, on jouait avec les petits trucs. Ils l'ont fait, ce sont des joueurs, donc c'était pas produit et c'est pas encore produit, c'est en cours. Et on était là, on dit ah ouais, ça fait comme ça, voilà. Et puis il y a d'autres soirs où il se passe vraiment rien et on boit et on parle de n'importe quoi. Il y en a qui sont arrivés aussi, ils ont fait ça récemment à l'Atomium à Bruxelles. C'est des, comment ça s'appelle, des metteurs en son, des metteurs en, enfin,
c'est des installateurs.
C'est des installateurs. S'il y a musique et surtout visuel, quoi.
Ça s'appelle Visual System.
Visual System, c'est sur le site. Faut regarder. Ils colonisent l'Atomium et pendant 2 mois, ils sont arrivés là, ils étaient tous fans, et ils disent mais nous on voudrait une partie un peu plus. C'est bien les installations, c'est bien, mais quel sens ça donne, quelle histoire ça peut raconter ou évoquer. Donc ils sentaient ça et ils disent nous on voudrait travailler avec Stéphane Beauverger en l'occurrence, on voudrait avoir des pistes un peu narratives que ça ouvre, pas que ça enferme, mais que voilà. Et du coup ils ont bossé ensemble, donc Beauverger et eux, c'était cet été, c'est passé, je suis même pas allé. Ça donnait lieu à des projets de dingue. Voilà, donc des fois ça arrive.
Et pour revenir un peu sur les auteurs. Valerio Evangelisti, dont je vois un livre ici, voilà, le cycle d'Emmerich, qui fait à peu près une dizaine de romans, c'est ça?
Oui.
C'est ton choix à toi, c'est ton, si j'ai bien compris, c'est un gros coup de cœur pour toi, tu voulais vraiment l'amener en France, il n'avait jamais été édité en France, ou il avait déjà
si, été, il avait été édité.
Si, mais il y a très longtemps, comme nous.
Ouais, un peu, ouais, donc c'est ça, après... Il y a quelques Volté, pour dire des purs et durs, qui me demandent des fois pourquoi j'édite Valerio Evangelisti, Nicolas Emmerich. Parce que ça a l'air d'être. Ça a été publié avant en Rivage Fantasy avec des couvertures bien, bien racoleuses et ensuite en Pocket. Et c'est une aventure éditoriale, c'est-à-dire qu'ils ont tellement fait payer Pocket, l'éditeur, que Pocket a arrêté de suivre la série. Et puis Rivage Fantasy s'est arrêté en cours de route. Donc il y a eu 5 ou 6 tomes. En France, il y a 10 ans, et il n'y avait pas la suite. Alors qu'il y a une vraie évolution quand même entre les aventures de Nicolas et moi, ça se lit indépendamment, mais il y a quand même une progression. Donc moi, j'essaie de convaincre des copains éditeurs de le faire, puis un jour, il y en a qui m'a dit, mais pourquoi c'est pas toi? Et j'y avais pas pensé. Sauf qu'effectivement, c'est un peu gros, quoi. Il faut en faire 10. Donc là, j'en peux plus. Et j'en peux plus. C'est un de plus, quoi. Ça fait, on est passé à 6 du coup par an, comme parution. Et voilà, mais a priori ça peut se lire que comme ça se peut se lire comme de la SF avec des histoires qui se croisent sur plusieurs périodes, présent, passé et futur. Et en fait c'est beaucoup, donc avec du dialogue, un inquisiteur qui est très méchant, qui comprend rien, quand tu comprends pas il brûle. Et une sorte d'anti-héros, mais malgré tout on s'y attache un peu parce qu'en fait, c'est pas Golgoth. Et en fait, derrière, il y a une pensée très forte et un système et une construction, mais hyper, hyper, hyper précise et hyper rigoureuse. Valerio Evangelisti, c'est un type. D'abord, très, très. Il a été prof d'histoire, donc il connaît très, très bien l'histoire, donc la partie inquisiteur. il joue avec tous les codes et il trouve des explications à certains phénomènes ou certaines périodes avec des explications magiques ou fantastiques ou scientifiques, mais derrière il y a une construction hallucinante et il dessine un 21e siècle en réalité est très politisé. C'est drôle puisqu'en fait il est très très politisé. Valérian Évangéliste, il est connu tous les réseaux très très à gauche en France. Mmh. Et voilà, donc derrière il y a, ben voilà, ça, pour moi ça correspond tout à fait à la Volte, sauf que 10 ça fait beaucoup. Voilà, j'ai pas fait d'un coup, hein, mais ouais. Là c'est le 9e qui vient de sortir.
Il y aura le coffret ou...
ça, il y aura un coffret, hein, un seul.
Traduit par Jacques Barbéry qui lui-même.
Oui, ce qui me permet de lui donner un peu d'argent.
Non, écrit à la Volte, oui, aussi quelque chose de beaucoup plus fantastique pour le coup que.
Ouais, délirant,
tient,
ouais.
Qui tient plus d'un Lovecraft que d'un.
Je sais pas, un mélange de policier, Lovecraft à Barbéry, ouais, c'est vraiment déjanté, ouais.
Ouais. Sur le truc. Et alors, est-ce que tu peux terminer sur une question pour Alain, pour vous deux en même temps, celle-ci. Ce recueil.
Bah, si toi, tu t'en parles, t'en as lu aucune des nouvelles.
C'est... Moi ?
Non.
Alain ?
Ouais. Oh, t'as lu si la tienne. T'en as lu une.
T'as pas lu la mienne.
T'as lu la tienne. Alors, faites demi-tour dès que possible. C'est un peu très représentatif de ce qui se passe aux Encombrants. Pour les 10 ans de la Volte, on voulait faire pas mal de choses. On parlait de festivals, de trucs et de machin. On disait, ouais, mais on va faire un bouquin quand même. On est une maison d'édition. Et puis il y a des esprits un peu tarés et bancals qui dont Alain Damasio, Stéphane Beauverger.
Ouais, il était pas là.
C'est David Calvo.
David Calvo, Stéphane Beauverger. Et parce qu'on parlait d'un bouquin, puisque ça me permet aussi d'en parler, j'ai pas pris celui-là, de Philippe Curval qui s'appelle Juste à temps et qui est un bouquin que bon évidemment je trouve extraordinaire, ça va sans dire, mais qui se passe dans la Baie de Somme. Et on va dire que le personnage principal c'est la Baie de Somme. Passé, présent, futur, encore une fois. Et la Baie de Somme, c'est, d'abord, c'est magique comme endroit. Donc j'avais dû faire une sortie en fin de soirée en disant c'est de la science-fiction régionaliste. Voilà.
Wow.
Et donc, science-fiction régionaliste, Calvo Beauverger, hop, on n'a qu'à faire un recueil de science-fiction régionaliste. Et on ne sait pas ce que c'est, hein, vraiment. Mais,
voilà. C'est le premier recueil donc, de science-fiction voilà, régionale au monde.
Ouais, voilà. Au monde, c'est pas grave.
Ah oui.
Donc thème a été donné. Non, pendant un an, je voulais pas le faire. Justement, je vais essayer d'être raisonnable pour en disant, il faut quelqu'un pour s'en occuper vraiment, un éditeur. J'aurais pas le temps, ça fait trop. Voilà. Et puis au bout de, non, peut-être pas un an, un peu moins quand même. Je me suis dit bon, quand même, on y va parce que voilà.
Il a fini par recevoir des nouvelles, donc il s'est dit qu'ils avaient pris ça au sérieux.
Et là, il y a tous les auteurs de la Volte plus d'autres. Et il y en a qu'on n'a pas sectionné, c'est la vie. Donc il y a dont un qu'on aime beaucoup, mais on a conseillé que la nouvelle rentrait pas là-dedans sur Lyon. Donc il y a pas de nouvelles sur Lyon. C'était au début avec le gros caillou en plus. C'était vraiment, c'est celle que j'ai retravaillé le plus, fait retravailler. On a vraiment essayé. Puis à la fin, on a dit non, ça passe pas assez. Donc il n'y a pas Lyon. Et on n'a pas décidé de se répartir, de faire les régions selon le découpage, soit nouveau découpage, soit ancien, c'est pas la question. Donc ça peut être des micro-lieux ou des régions ou des villes. Voilà. Et donc Alain, ça lui a permis d'écrire parce que vous allez lui demander en fait après où il en est de son écriture.
C'était la question, c'était,
n'est-ce pas? Et donc Alain a écrit une nouvelle. C'est bien en 3 ans.
Donc tu as écrit une nouvelle sur le
d'accord.
Ouais, bah sur le d'accord. J'avais vécu 4 ans là-bas. J'ai gardé des liens très forts avec le territoire et les gens qui sont là-bas, mes amis. Et du coup, ça faisait longtemps que je voulais rendre un hommage et donc je suis parti sur la résistance et le Vercors et sur l'idée, voilà, je vous donne le pitch en 2 secondes si vous voulez, c'est rigolo. C'est un monde où on peut stocker les souvenirs dans les molécules d'eau, et du coup, il y a une centrale dans la vallée du Rhône qui stocke des millions d'heures de souvenirs des gens. Et puis, il y a une terroriste qui arrive, qui fait exploser la centrale, et donc il y a des kilomètres cubes comme ça de vapeur d'eau qui partent dans le ciel, chargés évidemment de tous les souvenirs des gens qui avaient stocké bêtement dans cette centrale. Et ça dérive, c'est l'hiver, ça dérive avec le vent et ça retombe en neige sur les plateaux du Vercors en fait. Et donc on a des mètres comme ça de neige mémorielle et les gens viennent carotter la neige.
Ouais. La neige.
Ouais. Pour ceux qui connaissent l'Oisans, c'est ouais. Et du coup, les gens viennent carotter la neige et se shooter avec les souvenirs qui sont déposés. Et un certain nombre de personnes essaient de comprendre ce qui s'est passé et se disent que le souvenir de l'explosion de la centrale doit être présent quelque part dans le champ de neige. Donc c'est cette histoire-là.
Voilà, bon. Ça donne envie, hein.
D'accord. Et là, donc là-dessus, tu as laissé complètement carte blanche
Ah ouais,
à chaque auteur sur la ville.
Blanche, Calvo, bah toujours. Stéphane et David ont écrit un texte. Je l'ai mis en partie, pas tout, mais je l'ai mis là. ont écrit un texte pour dire, parce qu'au début, on avait surtout déliré en disant il fallait mettre une contrainte, et donc finalement elle est devenue optionnelle, donc il y en a que 2-3 qui l'ont respecté. C'était de mettre, tu ne l'as pas respecté, c'était de mettre une marque ou un magasin régional.
Une enseigne.
Une enseigne, donc bien typique de chaque région. Voilà,
ils chercher.
Donc David Calvo était parti dans un délire sur la foire fouille, il cherchait. Alors c'est pas, je suis pas sûr que ce soit complètement régional, mais il avait cherché l'ancien logo de la foire fouille toute la soirée. Mais si c'est un singe qui fait des noms. Bref.
Un singe pieuvre.
Un singe pieuvre, voilà, c'était voilà. Ça, hein, c'est normal. Et donc, voilà, sinon c'est science-fiction régionaliste, on ne sait pas ce que c'est. Voilà, chacun y voit d'ailleurs, c'est assez différent. Souvent, ça tourne autour de la mémoire et de l'enfance, hein, quand même. On voit beaucoup ça. Et puis, il y en a quelques-uns qui ont rajouté la foire fouille, dont David Calvo, bien entendu, et Stéphane Beauverger aussi, on le croise. Voilà, et là, il y a vraiment tous les auteurs. Et il y en a, je ne vais pas en parler de toutes. Hein. J'allais dire, il y en a une qui se passe en Corse, que j'ai mis à la fin,
ouais,
de Norbert Merjanian. Dont on a cité le nom et qui est très très forte pour ceux qui n'ont pas lu Norbert, qui a publié chez De Noël et puis en folio Les Tours de Saint-Marand. Et là, c'est une nouvelle très courte et très corse. Il s'appelle Merjanian, mais il est corse. Hein, Stéphane Beauverger en Bretagne, dans les Monts d'Arrêt. Donc, dans les Monts d'Arrêt, il a le droit de le faire. Il vient de là-bas, donc il y a toujours marqué ils sont cons, ces Bretons. Et c'est Lancou, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Et du vrai fantastique, c'est on a peur. Voilà, David Calvo, c'est Marseille qui explique la vraie, pour ceux qui ne la connaissent pas. Je pense que peu de gens connaissent la vérité sur Marseille. Donc, il explique la vérité sur Marseille, il a la vraie fondation de Marseille et pourquoi, en fait, Marseille, ça pue et ça bouge jamais. Il est Marseillais, sinon aussi, il a fait un truc ici. Bon, voilà, et puis il y a des lieux, des lieux moins connus.
Et pour finir, Alain.
Je
te posais la question qui tue. Tu nous parles un peu des furtifs, c'en est où? Tu travailles avec.
On va laisser le public poser des questions.
Non. allez-y. Posez-lui la question.
Ouais.
tu peux juste parler du travail quand même. Tout à l'heure, on parlait des gens avec qui tu travaillais. Tu fais donc un travail avec Faune Radio. Est-ce que tu veux bien parler un peu de ça?
Juste rapidement. En fait, bon, depuis que j'ai eu des petites filles, je vais raconter ma vie. J'ai eu des petites filles, donc il y en a une qui a 3 ans et demi, l'autre qui a 7 ans. Et depuis, donc, j'arrive pas à écrire comme j'écrivais sur La Zone et La Horde. C'est-à-dire que moi, c'est des bouquins qui exigeaient que je parte, que je m'isole pendant 2 ou 3 ans. Et quand vous avez une petite fille, une femme, et c'est plus possible. Ou alors vous divorcez, puis vous égorgez vos enfants.
J'ai promis à table de dire quelque chose parce que j'étais très excité en arrivant. Là, c'est la première fois, je pense. Il écrit vraiment bien quand il est seul affectivement ou quand il se prend des râteaux. Et donc là, il est heureux. Donc évidemment, il écrit beaucoup moins. Et donc j'ai révélé quelque chose à table que peu de gens savent. Je vais donc vous révéler la vérité. C'est pour ça que son père est venu tout à l'heure, mais il est reparti. La vérité sur la Tour Fontaine dans la Horde du Contrevent, pour ceux qui l'ont lu. D'accord ? C'était pas dans l'histoire. Là, je sens tout d'un coup une attention. Tiens, la vérité. On peut couper les micros. Donc, la vérité, c'était pas prévu et il s'est pris et il s'est fait jeter par sa copine qui s'appelait Fontaine. Voilà, c'est tout en fait. Hein. Après, quand on lit ça, on
ça
voit autrement.
Crée une scène, quoi.
Mais ça crée une scène, mais on voit autrement. C'est l'auteur qui sublime, vous voyez. Donc là, il est heureux, il a des enfants, il écrit pas.
Voilà, donc je fais. En fait, j'ai un projet. J'ai un projet depuis un bout de temps déjà, parce que même les premiers mots, je les avais écrits en 2004, c'est pour dire, ça fait 10 ans que ça s'appelle Les Furtifs, qui doit être le troisième grand roman que je veux faire. Donc je dois commencer vraiment à l'écrire depuis 3 ans, j'ai fait un chapitre et demi, donc pour vous dire comme ça avance. Mais du coup, pour le déployer autrement et puis me mettre quand même dans les conditions de vraiment l'écrire, j'ai rencontré deux réalisateurs sonores, une fille qui s'appelle Floriane Pochon et un ingénieur du son qui s'appelle Tony Regnault, qui sont de Montpellier. Et on a décidé de développer cet univers des furtifs, donc sur lequel j'ai déjà 250 pages de cahier quand même, avec tous les fiches personnages, et les décors, les concepts, enfin tout est en place, il faut juste que je me mette à écrire. Et donc cet univers qui vit déjà, on a décidé de le développer au niveau sonore. Donc on le développe par la voix et le son, donc on fait des paysages sonores de la ville du futur, on fait des scènes du livre, mise en son. Donc c'est pour la radio, c'est pour le podcast, c'est des choses qu'on peut écouter en ligne. On fait des portraits sonores de personnages, on fait des sortes de fausses pubs politiques donc en 2034, etc. Donc on travaille beaucoup là-dessus. Donc tout l'imaginaire du livre est en train de se déployer au niveau sonore et ça va être certainement fini ça avant que le livre même existe, quoi. Donc vous entrerez peut-être dans cet univers par les oreilles. Et voilà, quoi.
Pour l'instant, c'est pas accessible. Enfin, eux, ils ont un site phone radio. D'ailleurs, ça doit être aussi, ils doivent être cités sur le site de la web. Mais ça va être lancé officiellement et mis régulièrement des ateliers sonores mis en ligne.
Ouais, des morceaux qui sont mis en ligne. Là, ça commence un tout petit peu. Moi, j'adore. On a ce qu'ils appellent un paysage sonore de 12 minutes comme ça sur la ville du futur. C'est que vous êtes projeté en 2030. Vous mettez le casque. En plus, c'est en binaural, c'est-à-dire que le son est.
Vous mettez en casque.
Et complètement spatialisé, c'est-à-dire que vous entendez les sons derrière, devant, etc. C'est vraiment l'équivalent du relief, mais pour le son. Et ça s'écoute pourtant avec un casque vraiment normal stéréo. C'est super bien fait. Et vous êtes en train de vous balader, de marcher dans la ville du futur avec tout ce qui se passe, avec les sollicitations commerciales se traitent de façon très différente. Il y a des espaces privilèges premium dans lesquels vous pouvez aller ou pas aller, parce qu'il y a toute une logique ultra-libérale de la ville du futur. Donc vous rentrez dans un monde nouveau et vous vous immergez dedans par le son. Ouais. Moi j'aime beaucoup parce que le son ne bloque pas pour moi l'imaginaire, le son le porte. Alors que moi j'ai tendance, quand je vois des images sur des livres, même sur la Horde, sur la Zone, etc., j'ai souvent l'impression que ça bloque l'imaginaire, mais en tout cas ça bloque le mien. Et le son n'a pas ce phénomène de barrière et au contraire porte très très bien les imaginaires fantastiques ou SF. Donc je suis très content, ça fait très longtemps que je voulais rentrer dans ce monde-là par le son et voilà. Mais par contre le livre avance pas et je vous fais quelques nouvelles.
Et donc si vous pouvez déjà avoir écouter ce que fait justement ce duo de sondiers assez fou pour les 10 ans de la Volte à Nantes pendant les Utopiales, il y a
101 heures d'y être sur plein de sites apparemment et
sur Faune Radio,
ils ont bossé sur Faune Radio, ils ont bossé voilà. Donc il y a tous les auteurs qui sont enregistrés les uns les autres, qui ont lu des textes des autres, mais des extraits courts. Moi j'aime. Enfin, voilà,
ce sont des passages d'une heure, d'une minute, voilà. 10, 30.
Ils lisent, c'est que du texte au milieu très court. Tu vois, toi?
Non, j'ai juste marqué.
Et donc, alors, vous prenez vos cahiers à la page 4.
Et vous notez, c'est vrai que c'est pas évident.
A-U-N-E.
Ouais, c'est une faute d'orthographe.
R-A.
Et donc, radio. Et donc.
Non, mais c'est super. En plus, le c'est une radio incroyable. C'est incroyable.
Voilà. Et donc, voilà, il y a 101 heures où eux-mêmes vont rajouter des sons, de la musique, voilà. Et puis, il y a des auteurs, des lectures d'auteurs, des extraits parfois très courts. Et en plus, on aura une salle. Bon, ça, pour ceux qui seront. On aura une salle. C'est comme ça qu'on a lancé la Horde il y a 10 ans, en fait. On a pris une salle. Enfin, on a fait des choses un peu différemment, quand même, de d'autres. On a pris une salle, on a fait une expo, on a fait des lectures, on a balancé de la musique. Et là, donc, il y aura une salle avec des siestes sonores. Ouais. Qu'on s'allonge et on a du son avec le texte au centre et pas des lectures pas des lectures longues, hein, c'est vraiment du son. Et puis il y aura le monologue joué là, c'est pas c'est mieux que ce moi qui le dise, non, et le monologue joué, le monologue que Benjamin a dit pour la première fois
ce matin
là-bas, de texte à partir des textes de la zone du dehors.
Ouais. Et donc dans cette salle où effectivement, c'est une vraie mise en son, c'est pas seulement de la pièce radiophonique, c'est pas seulement des lectures enregistrées, il y a vraiment, c'est de l'ordre du sound design au cinéma où à partir de sons enregistrés en live, ils rajoutent quelque chose pour vraiment habiller ça et vous faire croire que voilà, vous avez tourné dans un studio à Lyon et quand vous regardez le film, finalement, vous avez l'impression d'être en 2020 dans une ville du futur qui n'existe pas, avec tous les sons, chaque son est recréé, le bruit de voiture
est spatialisé, comme vous disiez,
et spatialisé en plus en même temps. Donc
vous pouvez écouter
101 heures 24 heures sur 24 sur internet.
Ils sont vraiment à l'avant-garde, je trouve, c'est vraiment très fort.
Voilà, ça c'est le projet. Donc la blague, c'est de dire que le projet de film, puisque vous nous posez la question, le projet de film de l'art du contrevent, alors Alain.
Bah, c'est au point mort pour l'instant. Hein, donc, c'est la question qui tue. Quoi, ouais. Donc, il y avait un film d'animation qui était en cours, qui était prévu sur la Horde du Contrevent. Il y a eu beaucoup d'argent investi dessus. Moi, j'ai scénarisé, j'ai fait un an dessus.
Tu as fait un putsch.
J'ai fait un putsch, j'ai fait travailler. Mais...
Avec encore quelques Volté et d'autres.
Norbert, Henri.
Le scénar qui est devenu donc un. Enfin, ça devait devenir deux films. Yann Kounen à la réalisation.
Ouais.
Et en ce moment, ça patine.
Ça patine. Voilà.
Ça patine, c'est pas complètement terminé, mais.
Bah, le cinéma, c'est-à-dire que le cinéma, c'est extrêmement complexe de faire sortir un projet. Et bon, voilà, si les producteurs sont pas assez. Puissance, ça sort pas et c'est voilà, pour l'instant ça patine, donc on verra.
On espère que ça repartira, mais là pour
l'instant,
ouais, c'est pas... j'ai fini par enfin, j'étais au courant quand même que ça avançait pas beaucoup, mais quand j'ai lu sur Allociné, Damasio, Yann Kounen, Marc Caro, j'en pouvais plus, mais ça faut pas croire tout ce qui est écrit. Hein.
Ouais. Bon, on va laisser les questions publiques.
Voilà, c'est ce que je veux dire. Si vous avez des questions, soyez
on répond
timide.
À tout.
Ils répondent à tout. Ils peuvent lâcher des vérités, inventer des conneries.
Ouais, bon, bah parfait.
Non.
Des remarques. On parlait d'autres livres de la Volte que je n'aurais pas cité malheureusement. Non. Bon.
Ça intéresse vachement.
Mais non, on est hyper complet, c'est pour ça.
Voilà. Non, pas habitué.
Voilà. Très bien, alors moi je vous posais des questions. Ouais, sinon je vous posais des questions. Ouais.
Tout à l'heure, Alain Damasio, vous parliez de votre démarche voilà, quand vous allez écrire un bouquin, que vous faites une sorte de bible en gros avec plein de renseignements sur les personnages. Je voulais savoir, est-ce que ça, c'était déjà quelque chose qui était présent pour les premiers écrits que vous avez faits, ou alors est-ce que c'est une démarche qui est venue par la suite, justement que vous avez pris de la bouteille et tout
Ouais, c'est une bonne question en fait, parce que sur le premier roman, La Zone d'Or, c'était beaucoup plus instinctif. J'avais beaucoup lu en termes de philosophie, donc l'univers d'un point de vue sociologique, politique était très en place. Mais par contre, sur les personnages, j'avais pas de fils personnage, tu vois, j'avais pas bâti des fiches. J'avais travaillé assez peu les décors.
Ils sont très typés. Ils sont...
Ouais, c'est très typé, mais
ils ont un style, ils ont une personnalité dans La Zone d'Or.
Ouais, mais j'avais pas fait
un
travail, je dirais, méthodologique aussi fort que sur la suite. Sur la Horde, j'ai bâti les fiches personnages extrêmement précisément. Il y avait des rubriques par personnage. Tu avais les origines, leur réseau relationnel, leur quête, intestine, ce qui s'opposait à la quête, leur 8e, 9e fin. Enfin bon, il y avait tout, leur look. C'était extrêmement précis. Et il y avait surtout leur style. J'avais défini leur style pour chaque personnage. J'avais déterminé que tel personnage allait utiliser tel type de phrase, droite, pas droite, en zigzag, en tourbillon. Il parlerait plutôt au passé simple à l'imparfait, ou plutôt au conditionnel, ou plutôt au présent indicatif, etc. Donc tout était bâti très précisément. Et plus ça avance dans les projets, ouais, plus j'ai tendance à plus construire en amont. C'est pas forcément bien d'ailleurs, parce qu'il y a des effets de blocage. Par exemple, sur Les Furtifs, j'ai tellement voulu être méthodologique sur les personnages que je me rends compte que j'enferme mes personnages dans des rubriques, quoi, tu vois. Et si ton personnage ne vit pas en toi, il vaut mieux qu'il vive en toi et que tu aies une fiche personnage de merde. Que l'inverse, d'avoir une très belle fiche personnage, mais que ton perso, finalement, il n'est pas. Donc j'ai voulu trop vite aller à la méthode, par exemple sur Les Furtifs, ça m'a bloqué. Donc, tu apprends au fur et à mesure, c'est-à-dire, tu crois que tu as trouvé une méthode, et puis en fait, tu te rends compte que ça ne marche plus au livre suivant. Donc tu réinventes le travail d'invention méthodologique est aussi important que le travail d'écriture, parce que. Et tu inventes des méthodes, tu inventes des protocoles d'écriture, des méthodes. Et...
qui te correspondent
à... Ouais, ils correspondent à toi uniquement, parce que de toute façon, il faut que ça marche pour toi. C'est pas pour les autres, parce que les autres ont une autre méthode. Mais... Donc ça a changé, ouais.
D'accord.
Je vais enchaîner sur une autre question, je sais pas si je coupe.
Vas-y.
Et du coup, tout ce travail en amont, est-ce que ça vous prend autant de temps que l'écriture en elle-même, ou alors est-ce que, c'est quoi la proportion entre les deux?
En durée, c'est très différent, c'est-à-dire que, tu vois, sur la Horde, par exemple, il y a 4 ans de maturation à peu près, les 4 ans où je suis dans le Vercors. Je travaille en tâche de fond sur la Horde, mais j'écris rien. Et ensuite, j'ai fait 3 ans dans le Vercors où j'ai fait qu'écrire, tu vois. Donc là, c'était l'équilibre à peu près. Mais dans les 4 ans, je peux pas dire que tous les jours je travaille sur la Horde, c'est pas vrai. Mais c'est en espèce de tâche de fond, ou en tout cas de concentration de fond. C'est comme les Furtifs, là. Les Furtifs, je peux te dire que ça commence vraiment depuis 5 ans et ça reste en tâche de fond sur moi. Même si je fais plein d'autres choses, plein d'autres projets, etc., ça reste en tâche de fond. Voilà. Et l'écriture, moi, j'ai toujours mis 3 ans. Donc bon, on verra la prochaine fois, mais je pense que ça sera pareil. Voilà, mais c'est plus la maturation qu'il y a. Il faut que l'univers reste présent en toi. Et du coup, quand tu démarres, tu as tellement vécu dans ton univers inconsciemment, de temps en temps, type, moi je vais au concert. C'est marrant, quand tu vas voir le concert, voir des films, ça me libère plein de choses. Et je repense à l'univers. Ou les temps morts, le transport, etc. Donc l'univers remonte, continue à vivre en toi. Et quand tu arrives au moment de l'écriture, tu as l'impression d'avoir vécu déjà depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans dans ton univers. Donc tu as une sorte de familiarité que le lecteur va sentir. Il se dit, putain, mais je suis dedans, etc. Ben ouais, t'es dedans parce que moi je suis dedans, quoi. Tu vois, je suis dedans depuis un bout de temps, quoi. Tu vois, donc c'est plus ce temps de maturation. Et quand tu court-circuites ce temps de maturation, pour moi, c'est plus difficile de faire monter un univers. Voilà. Par contre, voilà, le temps de maturation, il commence à être long sur les furtifs. Donc il serait temps de.
Moi, j'aurais une question par rapport au fait d'être solitaire, par exemple, pour écrire. Est-ce que c'est vraiment essentiel de. Pas de souffrir, quoi, pour...
Non, c'est pas du tout la souffrance, c'est l'inverse.
Prendre un râteau,
c'est important. Non, non, mais c'est pas du tout. Moi, quand j'étais en Corse à écrire le truc, j'étais parfaitement heureux, quoi, tu vois. C'est peut-être les moments de ma vie où j'ai été en termes de solitude, parce que c'est dur d'être heureux seul parfois, mais j'étais parfaitement dans l'axe de ma vertèbre, j'étais parfaitement heureux parce que je faisais exactement ce pourquoi je me sens fait, quoi, tu vois. Alors que je passe mon temps maintenant aujourd'hui à faire me disperser dans tous les coins, et il y a plein de moments où je me sens complètement à côté de ce que je devrais faire, bon. Donc c'est pas du tout une question d'être malheureux pour écrire, c'est l'inverse, c'est d'être dans des conditions où personne ne t'empêche de faire ce que tu dois faire, quoi, tu vois.
C'est
vraiment ça.
Les zones de travail, c'est toute la journée, toute la nuit.
Toute la journée, ouais. Mais moi j'avais des séries, je partais 3 semaines, c'était comme ça. Mon mois quand j'étais en Corse, je partais 3 semaines, donc à peu près une 20aine de jours, tout seul là-bas, et ensuite je revenais 7 à 10 jours à Paris. À l'époque j'étais à Paris, où je me gavais de vie sociale, j'écrivais pas, etc. J'accumulais du. Mais quand je revenais, je faisais 20 jours tout seul, tu vois. Alors, c'est 20 jours, quand je me levais le matin, je pouvais écrire à n'importe quel moment de la journée, quoi. Je me levais le matin, j'écrivais l'après-midi.
Mais t'étais tout seul.
Ah ouais. Et puis, je partais toujours au moins 2 heures à l'extérieur, à marcher, à nager, à faire du vélo. Sinon, tu pètes les plombs, hein. Il faut se dépenser physiquement, etc. Donc, mais j'avais un mode de vie entièrement tourné autour de l'écriture. Donc, à n'importe quel moment de la journée, quand je me sentais, quand j'avais l'énergie, j'écrivais, quoi, tu vois. C'est pas dire que j'écrivais 12 heures par jour, personne n'écrivait 12 heures par jour.
Mais ouais. Ça, c'est parce que des fois, on demande les écrivains, ils se prononcent sur la façon de travailler et tout ça. C'est propre à l'un et chacun a sa méthode.
Ah non, mais t'as des gens qui écrivent dans les cafés, qui écrivent dans le bus.
Il y en a qui écrivent de 6 heures à midi tous les matins, ils crachent des lignes, ils gardent peut-être rien à la fin, comme ils disent, mais voilà. Il y en a, Stéphane Beauverger est hyper organisé. Le matin, il écrit une chose, l'après-midi, il est plutôt sur une BD, enfin voilà. Il y a vraiment des...
Tu prends David Calvo, il est totalement éclaté, il va écrire à n'importe quel moment, il écrit à l'impulsion, il écrit par shot pendant un mois, il va s'isoler en Islande et il va écrire, il peut faire n'importe... Et moi j'ai des gens qui écrivent que la nuit,
Il dessine aussi,
tu vois. Il y en a qui écrivent que la nuit.
Il joue à la PS3, il habite chez moi, il joue surtout à la PS3.
Donc il n'y a absolument pas de règle, attention, moi je ne prescris rien, il n'y a pas de règle. Il y a une condition d'énergie optimum pour toi en tant qu'individu, il faut trouver laquelle. Et parfois, tu cours toute ta vie pour trouver la. Moi, j'ai plein de gens qui sont des écrivains potentiels autour de moi, et je suis convaincu qu'ils ont la sensibilité pour faire des grands livres. Simplement, ils n'ont pas trouvé leur condition d'énergie, d'isolement ou de vie collective qui va faire qu'ils vont être dans les conditions pour écrire. Moi, j'avais trouvé, c'était la solitude. Voilà. Et la solitude dans la campagne, en pleine nature, et voilà, c'était ça. Et aujourd'hui, je peux plus le faire. Donc,
famille, ça s'intègre pas du tout, ça. Hein? Dire 2 semaines. Ciao la famille, et puis on se revoit dans
je peux le faire là, j'ai négocié 5 jours des fois. Voilà,
5 jours.
Mais attends, les petits enfants, non, mais c'est compliqué. Après, c'est des vrais problèmes de couple, c'est des vrais problèmes d'enjeux, etc. Qui sont compliqués. Mais là, ça va avec les petites qui montent en âge. Je vais pouvoir à nouveau me réisoler. Mais j'ai besoin d'au moins une semaine tout seul pour amorcer vraiment des choses fortes. J'arrive pas à écrire. Mes gamines, je les pose à 8h30, elles reviennent à 16h30. Entre 8h30 et 16h30, les gens ils me disent « Ouais, mais c'est bon, t'as 8h, qu'est-ce que tu fous, quoi ?» Tu vois. Et ils ont raison, j'ai le temps dans l'absolu. Mais simplement, c'est cette découpe du temps, moi, mais pas adéquate, quoi. Donc j'arrive à écrire des nouvelles dans ce type de trucs séquenciers, mais sur un roman où t'as un univers entier à porter, il faut le porter, l'univers. Et l'univers, vous avez vu La Horde, c'est pas un tout petit truc, quoi. C'est tu portes un énorme... Je portais 23 personnages, j'ai porté 23 persos. Tu le fais pas en allant chercher ta fille à l'école à 16h30, puis en faisant la bouffe, puis ensuite. Enfin, tu vois, moi j'y arrive pas. En tout cas, moi j'y arrive pas. Il y en a qui peuvent le faire. Moi je suis pas capable. Voilà, je suis pas capable de le faire. Voilà. C'est peut-être plus simple de dire ça. Ouais. Je dis pas que c'est impossible, certains le font. Donc, c'est que moi je suis pas capable. Voilà. Il faut le savoir, il faut le reconnaître. Et faut...
Oui.
Ouais.
Vous parliez de maturation des romans avant d'écrire et.
Ah oui, j'ai vu.
Il est en train de dessiner sur une serviette.
C'est pour savoir à quel point, au moment où vous commencez à écrire, vous avez eu plusieurs années de maturation, au moment où vous commencez à écrire, à quel point tout est clair dans votre tête, tout est, il suffit, entre guillemets, que d'écrire, ou est-ce que y a des choses
Finalement, j'adorerais qu'il suffise que d'écrire. Non, évidemment, tout reste à faire. D'abord, statistiquement, c'est un défi énorme, chaque phrase, de toute façon. Mais surtout, non, ce qui est là, c'est les personnages sont là. L'univers est là. Toute la sociologie de l'univers, la politique de l'univers, les technologies de l'univers, le monde dans lequel ça se passe, comment sont les villes, etc. Tout est là, ça c'est clair. Mais ce qui n'est pas là, j'ai une trame narrative, mais super sobre, super simple, que je peux te raconter en 2 minutes, tu vois. Et je me laisse énormément d'improvisation dans chaque chapitre. Si je ne peux pas improviser au niveau écriture, j'ai la trame, donc je ne vais pas me paumer n'importe où, mais si vous voyez mes cahiers sur la Horde, à chaque chapitre, je mettais 3 lignes pour dire, bon, en gros, je vais dire ça, je vais faire ça en termes de... Et ensuite, c'est l'improvisation.
Non, mais ça a même changé. Ouais, ton ordre de chapitre...
après, ça a changé.
Au début, les trolls devaient arriver... Et je parle pas tôt, de la Tour Fontaine, mais il n'y a pas que ça. Mais les fréoles devaient arriver beaucoup plus tôt. Ouais. Et la flaque de l'Absinthe ne devait pas durer 3 chapitres.
Ouais, complètement. Mais c'est une méthode, hein. Moi c'est ma méthode, mais c'est, tu peux faire complètement autrement. Hein. Je veux dire, moi j'ai l'univers placé et les personnages, tu vois, et j'ai surtout le sens philosophique que je veux porter, et je me laisse une très grande liberté narrative, très grande liberté de structure de récit, tu vois. Tu prends Stéphane Beauverger, Stéphane pour faire le déchronologue, il a mis je sais pas combien de temps à caler la structure narrative. Tout le plan scénaristique était calé, mais comme une horloge, quoi.
Non, mais là, et ensuite, il connaissait le pitch du déchronologue, enfin le déchronologue, c'est. Ça peut se lire comme de la flibuste, mais il y a des marées du temps, hein, donc le livre est déchronologisé, d'accord. Donc vous avez le futur, vous avez le passé au fur et à mesure des chapitres. Donc là, il faut que ce soit réglé avant parce que sinon c'est pas possible. Il l'a pas écrit linéairement pour ensuite mélanger les chapitres. C'est écrit comme ça. Qu'est-ce qu'on doit savoir quand tel chapitre du futur apparaît?
Mais indépendamment, c'est un scénariste de départ. Donc, de toute façon, il cale le scénario d'abord. C'est son truc.
Il est scénariste de BD et de jeux vidéo. Ouais. Et justement, il disait qu'il avait voulu. Je sais pas si c'est,
c'est
à toi qui l'a mentionné ou si c'est à moi. Il disait qu'il avait voulu écrire un roman dans le désordre. Qu'il voulait vraiment écrire avec ses les scénaristes fonctionnent beaucoup avec des clés, des révélations à chaque moment de l'avancement du film. Et normalement, chaque clé met en perspective tout ce que vous avez déjà vu, ouvre une porte pour le futur, et ainsi de suite, jusqu'à la dernière porte qui s'ouvre, qui est censée remettre tout le film que vous avez vu en perspective, et que ça vous fait un énorme cliffhanger, et vous avez un film multi-oscarisé et un superbe chef-d'œuvre. Mais Stéphane disait que lui, il apporte énormément au scénario avant de commencer, parce qu'il veut que tout soit vraiment qu'après, il n'y ait plus que de l'écriture et de la recherche de personnages et de sensibilité dans l'écriture. Sauf que pour celui-là, il s'était dit, je vais faire un truc un peu dingue, je vais écrire mon roman dans le désordre. Et qu'au bout de 6 mois, ou je ne sais plus trop combien de temps, il s'était rendu compte que ce n'était pas possible.
C'est vrai.
Et donc, en fait, il a écrit le roman dans l'ordre, de l'ordre de vie de l'histoire de son personnage. Et ensuite, tout son travail a été de se dire, comment est-ce que je vais raconter une histoire que les gens vont pouvoir lire comme si c'était dans un certain, comme si c'était dans un ordre chronologique, alors que c'est l'ordre chronologique du roman, mais pas de l'histoire, en fait, si vous voyez un peu la nuance. Et il a réussi, là, il a réécrit un peu certaines choses. Il y avait un des Voltaires tout à l'heure qui disait que il avait réussi à écrire chaque début de chapitre en faisant en sorte que vous sachiez pas où est-ce que vous êtes. Il y a un titre qui vous dit l'endroit géographique où vous êtes et l'année, mais dans le récit, les 15-20 premières lignes, vous ne savez pas du tout où vous en êtes. Et il se passe quelque chose, le personnage est en train de vivre quelque chose, se pose une question, et là, tout d'un coup, vous commencez à vous dire, ah mais alors, il a perdu son bateau, ou il a rencontré telle personne, le nom de son second a changé, mais comment ça se fait? Et il arrive à vous emmener comme ça. Et vous pouvez le lire, je l'ai fait, hein. Je l'ai enchaîné 2 fois de suite. Je l'ai enchaîné dans l'ordre du roman. Et je l'ai enchaîné du chapitre 1, puis le 2, puis le 3, puis le 4, puis le 5, puis le 6, puis le 7. Vous lisez 2 romans complètement différents. Stylistiquement, c'est assez fou, parce que c'est la même histoire, sauf que l'ordre, pour le coup,
la chronologie et la déchronologie a vraiment, est vraiment partie prenante du récit. Et ce niveau-là, c'est vraiment une manière de travailler qui est vraiment bah, propre à Stéphane et à ce livre d'ailleurs en particulier.
Très bien. Non, c'est bien. Je pense que Stock a raison. Oui.
Sur la ligne éditoriale du coup de la Volt.
On avait réussi à éviter le sujet. Quand on vous a demandé de poser des questions, mais.
Du coup, de ce que j'ai compris, vous éditez principalement des auteurs français. Enfin, j'ai entendu
oui.
quelques
traductions. Oui. Comme je lis pas d'autres langues, et puis ça dépend des rencontres.
Oui. Non, mais du coup, ma question, c'était est-ce que voilà, est-ce que c'est ce qu'on vous envoie, ou est-ce que c'est une volonté de votre part de promouvoir cette production au sein d'un champ éditorial qui pourrait être très
ambitieux. Mais en fait, je suis parti d'un principe très naïf, mais puis je l'assume, c'est je lis ce que j'édite. Mais c'est pas ironique quand même ce que je dis.
T'as dit ce que tu lis ?
Non, t'as dit ce que tu lis. Je lis ce que j'édite, sauf... Non. D'autres éditeurs, et c'est normal, font confiance à des gens, ça s'appelle des scouts ou des directeurs de collection, et puis ils découvrent. Moi, je me souviens, tous, on était émerveillés par Christian Bourgois, hein, quand même, l'édition, tout ça. Et donc, moi, j'étais commercial, et il venait, il racontait, il faisait le pitch du bouquin qui allait sortir dans trois mois plus tard, d'accord. Et puis ensuite, il revenait à la réunion d'après, il dit « Ah, je l'ai lu, c'est vraiment bien hein. !» Donc, c'est comme ça, un éditeur, c'est normal, hein, c'est tout, il fait confiance à d'autres gens. Moi non. L'anglais je lis, j'adore Jeff Noon, et c'est vrai que quelque part moi l'univers de Jeff Noon j'y suis sensible, je veux dire je pourrais jamais trouver qu'il ferait un bouquin mauvais ou moins bon, c'est le style est tellement personnel que je rentre tout de suite dedans, voilà. Et Evangelisti, bah je les avais lus en français et c'est comme ça que j'ai connu. Voilà, on a failli faire un livre russe, là on avait vraiment ça et on s'est pris comme des manches. Il va sortir ailleurs, donc j'avais quand même failli. Quelqu'un en avait traduit déjà une partie. J'avais fait lire à une amie aussi le livre, mais sinon, voilà. Puis en même temps, je recherche pas à faire plus de livres, j'essaie plus presque d'en faire moins. Voilà. Donc non, c'est pas propre aux Français. Maintenant, français, il y a de quoi faire et voilà. Mais c'est pas, oui. Voilà. S'il y en a d'autres, si vous connaissez les auteurs. Non, enfin, voilà.
J'ai une petite question pour Alain, je me permets. Une petite question qui tue. Est-ce que dans le succès de la Horde, l'énorme succès peut-être surprise qu'a eu ton deuxième roman, il n'y a pas quelque chose qui vient bloquer l'écriture des furtifs?
Honnêtement, non. Je pense que je me suis posé la question, parce que tu peux te poser la question. Non, c'est vraiment un problème intime et familial, quoi, tu vois, c'est un problème de mode de vie, quoi, tu vois, et tu fais un choix, c'est-à-dire que tu fais un choix, tu te dis soit je suis comme Nietzsche et je serai célibataire toute ma vie, et là, du coup, tu avances vraiment dans ta production, soit tu te dis, bah, à un moment donné, j'ai choisi d'être heureux, quoi, tu vois, au détriment de la production. Mais c'est pas, non, mais ça veut dire pas dire qu'il faut que je sois malheureux pour écrire, hein, c'est pas du tout ça, moi, je défends pas du tout ça. Ça veut dire que le fait de j'ai envie de voir pousser mes filles, j'ai envie de les voir grandir, j'ai envie d'être dans la vie, quoi, tu vois,
après,
simplement.
Ça change, hein, juste en passant, pour pas, à chaque fois, ça me gêne, mais je suis mort, tu le dis très honnêtement, ouais. Genre que soit c'est la faute, enfin, tu le dis pas comme ça, mais que ça retombe sur tes filles, mais ouais. Par exemple, le fait d'avoir sa première fille a changé certaines choses aussi dans ce qu'il écrit. Ouais, ça a donné lieu, par exemple, à une nouvelle qui s'appelle Anna à travers la harpe, qui est dans le recueil de nouvelles. Donc,
un
souvenir assez solide, Anna à travers la harpe, c'est la perte de l'enfant, et en plus, même d'un point de vue de construction, c'est complètement différent de ce que tu as fait.
Ouais.
Donc voilà, enfin, c'est la vie aussi.
Enfin, non, mais moi je suis convaincu que ce que j'accumule en ce moment fera que si j'arrive à faire Les Furtifs, ça sera vraiment un très très bon livre, parce que j'aurai beaucoup plus de maturité que j'avais même sur la horde, c'est évident quoi. Ça m'apporte énormément ce que je suis en train de vivre. Mais simplement, c'est pas mes conditions optimum d'écriture, voilà. Encore une fois, c'est pas de dire il faut être maudit ou il faut être malheureux, c'est pas du tout ça. Il faut avoir du temps absolument libre, voilà. Et quand t'as une famille, bah t'es responsable, t'es lié, et tu peux pas dire salut tout le monde, moi mon écriture c'est ça qui compte dans le monde. Et mes braves filles, papa est un dieu et il va écrire, et il va faire le livre.
On verra pas,
tu vois. Et vous allez pas voir pendant 3 ans, tu vois. À un moment donné, c'est tout quoi. Tu as fait un choix, j'ai fait un choix de faire ces et il faut l'assumer, voilà, c'est tout, quoi. Mais il faut savoir qu'effectivement, les machines célibataires, quand tu regardes dans l'histoire littéraire, les machines célibataires, généralement, elles font plus de choses que les... que les gens qui sont en famille, en couple. Non, mais c'est aussi simple que ça. Mais il faut le dire, genre, les choses. Les gens ne le disent pas, ils sont là à se cacher dans leur petit doigt. Et franchement, l'histoire du succès, machin, moi, honnêtement, j'en ai rien à foutre, ça change rien quand t'es en train d'écrire. Ça part de toi, soit tu l'as dans les tripes et tu le sors, ouais, et dire, tu peux avoir du succès, pas de succès.
Il y a eu. T'as posé là quand même quelque chose, la Horde. Il y a des auteurs, sans citer personne, il y en a quand même quelques-uns qui disent que quand ils ont lu ton bouquin, ils ont jeté celui qu'ils étaient en train d'écrire parce qu'ils pensaient faire la même chose et que tu l'avais fait 10 000 fois mieux, qu'ils n'avaient osé imaginer que ce qu'ils feraient eux-mêmes. Tu as quand même la conscience que tu as posé quelque chose là dans le paysage de la SF française, que le bouquin, c'est très bien vendu et se vend très bien. Et il y a. Voilà, ma question, c'est juste qu'il n'y a pas ce syndrome du prix Pulitzer, tu sais, qui lui remet 5 ans.
Moi, je trouve que c'est l'inverse, quoi. Tu vois, c'est l'inverse. C'est-à-dire que tu sais, quand tu vas écrire, là, je sais qu'il y a des gens qui vont l'attendre. Tu vois, c'est une motivation énorme. Tu vois, c'est une motivation énorme. Mais ce que tu te rends compte, et là, je peux le dire, c'est que cette motivation. Elle vaut rien par rapport à la motivation intérieure. Tu vois, c'est-à-dire que la motivation extérieure de se dire, il y a plein de lecteurs qui m'attendent, moi je fais les salons comme là, et genre, je me dis, putain, quand c'est que tu fais ton putain de bouquin, Les Furtifs ? Ok, c'est génial, mais ça me sert à rien au moment où je suis devant la feuille, parce que si ça vient pas de là, et si je l'ai pas dans les tripes suffisamment pour le poser sur le truc, tu peux avoir des dizaines de milliers de gens qui disent, ouais, super, j'attends ton livre. Ça ne sert à rien, c'est abstrait, quoi. Le lecteur, c'est quelqu'un d'abstrait, quoi, tu vois. Alors à la table, vous venez voir, vous venez dire des trucs super sympas, mais ça reste abstrait, quoi. Le lecteur, c'est toi, quand t'écris. Et pour rebondir sur un dernier truc, il faut savoir que quand tu fais un livre pendant 3 ans, c'est un courage énorme, c'est un effort énorme, tu vois. Et produire cet effort et avoir ce courage, eh ben, c'est difficile, tu vois. Et aujourd'hui, je me sens, à cause du cocon de confort aussi que j'ai, je me sens moins courageux que je l'étais avant. Quand je suis parti faire la Horde, je veux dire, c'est une vie d'asset, quoi, tu vois. C'est une vie d'asset, faut reconnaître. Faut avoir vraiment de la puissance pour s'isoler comme ça et faire le truc, quoi. Et la Horde découle de cet isolement, tu vois, malgré tout, quoi, tu vois. Donc, il faut dire les choses simplement, ouais, c'est dur, il faut sortir les doigts, c'est dur.
Peut-être que l'éditeur, il a pas envie d'être patient, mais...
Non, mais j'ai la chance d'avoir un éditeur comme Mathias, n'importe quel éditeur, il m'aurait tiré une balle dans le dos.
J'ai trouvé comment lui mettre la pression depuis le début, mais ça marche pas plus, donc voilà. Il y a des auteurs, je leur donne une date, mais en fait, parce qu'ils en ont besoin, je sens qu'ils en ont besoin. Lui, je fais l'inverse, je dis bon, ça sortira en 2020.
Ouais,
c'est non, c'est pas possible, mais non, mais si, je sais pas.
On t'a mis 4 ans. Mais ça marche, ouais, c'est pas mal.
Là, ça marche, ouais. Ça marche, vous avez vu comme ça marche.
Après,
ok.
Est-ce qu'il nous reste 3-4 minutes question. Une dernière question pour la route.
Oui. Alain Damasio, je crois que vous avez travaillé sur le scénario de Rémy Alparmi.
Ouais, bien sûr.
Carrément, ouais.
Je veux savoir quel était votre pas dans le projet, si vous avez apporté l'univers ou si vous avez aidé, enfin.
Plus que ça.
J'ai tout fait. J'ai cofondé le studio de jeux vidéo, on était 5, donc on a carrément créé un studio de jeux vidéo, comme la Horde a été créée, comme la Volt a été créée comme ça. Donc on a créé le studio d'Antnone, et moi ils m'ont appelé, ils étaient 4 au début, ils m'ont appelé pour que je fasse l'univers. Donc j'ai créé un univers entier, qui est l'univers de Mambumi. J'ai bossé tout seul pendant un an et demi, et ensuite j'ai fait appel à mes copains, donc de la Volt, j'ai fait appel à Stéphane Bouverger, à Léo Henry, Jacques Moukieli, Norbert Merjanian et un ensemble d'autres gens. J'ai monté une équipe de 7-8 personnes et on a bâti une bible narrative de 1000 pages à 4, très, très étoffée. On a réduit à 200 pages et qui a servi de base pour les game designers, pour tout le monde. Voilà. Donc je suis complètement à l'origine du projet. Voilà. Et le projet, je l'ai porté tout seul pendant un an et demi. C'est vraiment mon univers au départ. Après, Stéphane a fait un boulot extraordinaire pour transformer ça en vrai scénario de jeu vidéo, parce que lui, c'est un pro du jeu vidéo. Moi, je ne suis pas du tout un pro du jeu vidéo. Je ne suis même pas un bon gamer. Mais lui, il avait la faculté à prendre ce scénario qui était un scénario de long métrage de 4 heures, si tu regardes vraiment ce qu'on avait fait, et qu'il a transformé en un scénario de jeu vidéo. Donc, le scénario, c'est vraiment lui, c'est vraiment Stéphane, même si c'est énormément inspiré de ce qu'on avait bâti. Et l'univers, c'est vraiment moi. Voilà. Donc, c'est vraiment un duo, quoi.
Vous avez participé sur tout ce qui est design ou...
Non, et malheureusement, j'ai pas eu des liens suffisamment étroits et souples avec les designers, ce qui fait qu'on avait créé beaucoup de choses pour qu'ils puissent s'inspirer, et ils ont. Malheureusement, je trouve pas du tout assez reprises qu'on avait. Donc, si tu veux, sur la bille narrative, tu as 3 ou 4% dans le jeu de ce que la bille narrative a posé, à peu près. Pour voir le niveau de déperdition. Hein. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est le jeu vidéo aussi.
Hein.
Non, je trouve que le jeu est très chouette et on peut en être fier parce que c'est par rapport à ce qui se fait. Je trouve que c'est un jeu qui porte vraiment l'univers, qui porte vraiment un monde, quoi, tu vois. Ce Néo Paris 2084, là, je trouve qu'il fonctionne. Après, je suis déçu parce que oui, je suis déçu sur le personnage en fait. Je suis déçu sur le personnage principal que j'avais bâti sur une vision que je trouvais assez neuve dans le jeu vidéo. Je voulais un personnage fragile, je voulais un personnage qui suscite l'empathie par sa fragilité. Et la machine culturelle de l'équipe, des 80 personnes de la boîte, a fait que c'est devenu l'éternel bimbo de jeux vidéo.
Je crois qu'ils ont eu des grands débats sur le bonnet. Et donc, ils ont essayé
la taille de bonnet.
Et voulaient que ce soit pas une super bimbo Lara Croft et que quand même la tendance marketing est un peu...
On a poussé. Et puis même à l'intérieur, c'est la culture
c'est l'industrie, c'est autre chose.
Donc ça, j'étais déçu sur le personnage parce que le personnage ne ressemble absolument pas à ce que j'avais bâti. Par contre, l'univers a été très préservé, les concepts ont été vraiment préservés. Il y a plein de choses qui ont été vraiment très bien préservées par le directeur du jeu, Jean-Maxime Maurice. Mais en design, ils ont fait un peu ce qu'ils ont voulu faire. Il y a eu après, c'est des compétitions dans la boîte, c'est des problèmes de boîte. C'est pas très intéressant, mais je suis déçu sur le personnage. Ouais.
Vous avez d'autres projets dans le même...
Non, j'ai arrêté. Moi, j'ai passé 3 ans. Je leur dis, je reste 3 ans. Comme je suis pas un gamer et c'est pas une industrie qui me fascine plus que ça, quoi, tu vois. Et du coup, là, je bosse sur un tout petit jeu vidéo, mais comme ça, pour donner la main. Mais non, je... Par contre, je reste fondateur, donc je suis la boîte, je suis ce qui se fait, etc. Mais Et si je refais quelque chose, ce sera avec une toute petite équipe, quoi. 10 personnes, 10, 15 personnes. C'est trop gros à 80. À 80, tu peux pas infléchir réellement ce qui se passe, quoi. Donc, c'est une belle expérience, ouais. C'est très
un petit mot de fin. Tiens. Donc Valerio Evangelisti, Léo Henry, Jack Barberi, Jeff Noon,
Alain, dont Alain sera sur, c'est pour être sûr, donc vous faites une haie ou j'en sais rien, mais il va au stand et il va s'asseoir derrière sa table parce qu'il n'a fait qu'une demi-heure en deux jours et vous pourrez le rencontrer là-bas.
Et dédicacer, faire dédicacer, faites demi-tour aussi vite que possible, ou bien la Horde, ou bien la Zone, ou une carte postale définitive.
Ou même les autres livres.
Hein. Les autres livres. Il y a la traductrice des livres de Jeff Noon qui est présente aussi sur le festival, qui se propose de faire des dédicaces. Elle a dédicacé mon intrabasse. Elle sera enchantée aussi de le faire.
Et d'en parler. Quoi,
et de parler de son travail, et de parler du travail de Jeff Noon. Voilà. Merci à tous.
Merci à vous.
Bonne fin de festival.